Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au studio de Radiola Quentin Préau, un peu plus connu ici et ailleurs sous le nom de professeur Drodro. Bonjour professeur.
Bonjour.
Vous exercez de nombreuses spécialités comme la typographie, la gravure, mais aussi beaucoup plus rare, la lasagnographie.
Ouais.
Vous êtes un véritable homme de caractère, toujours à l'affût de la forme et qui ne manque pas de relief. Ça va?
Parfait.
Professeur Drodro, on va parler ensemble d'un typo, deux typos, toi typo, doudou, événement dont Radiola est humblement partenaire, que vous organisez à la fin du mois de mai à Pont-de-Barré. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques traces d'encre de votre parcours, ce parcours qui fait de vous un artiste un peu multitouche?
Oui, alors c'est toujours le problème de savoir où est-ce qu'on commence, jusqu'où on remonte. J'ai fait des...
L'Antiquité.
Alors je suis né à Boulogne-Billancourt. J'ai fait des études de bande dessinée. Voilà, j'aimais bien raconter des histoires. Et ensuite, j'ai dû faire mon objection de conscience, à l'époque où ça existait encore, pour éviter de porter une arme, tout ça. Et j'ai trouvé, sur le Minitel à l'époque, un poste à Grignan, de typographe. Alors, je savais vaguement ce que c'était qu'un typographe, mais je ne savais pas du tout où était Grignan. Et comme j'habitais, j'étais revenu chez mes parents, j'ai confondu avec Grigny, en banlieue parisienne. Donc, j'ai rempli les papiers, tout ça, on s'est bien entendu. Et puis, je suis parti en vacances, et peut-être 15 jours avant d'aller au boulot, j'ai appelé pour savoir ce que c'était que la ligne RER pour aller à Grigny.
C'était
quoi.
Déjà de la lignographie.
Ouais, et alors du coup, on m'a dit, il y a eu un grand silence au téléphone, on m'a dit, non mais vous savez, c'est Grignan dans la Drôme. À la quoi
la Drôme.
Donc voilà, ça c'était en 97.
À la fois, vous ne connaissiez pas Grignan et à la fois, vous ne connaissiez pas non plus la typographie.
Ouais, non, j'ai découvert, enfin je connaissais les grands principes typographiques parce que je les avais étudiés pendant mon parcours. Mais j'avais jamais mis les mains dans l'encre, j'avais jamais touché un caractère en plomb jusqu'ici.
C'est quoi les outils que vous utilisez pour travailler ?
En fait, le problème quand on parle de typographie aujourd'hui, c'est que ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe, par exemple, d'un côté, ce que les Anglais appellent assez judicieusement le caractère design. Donc, c'est le fait de dessiner des polices, des lettres.
Des lettres.
Et ça, aujourd'hui, ça se fait de façon numérique, et il y a tout un tas de polices qu'on retrouve sur un ordinateur. Donc ça, c'est une version de la typographie.
C'est la version moderne.
C'est la version moderne, ou en tout cas, c'est la version qui concerne vraiment le dessin de la lettre. Et ensuite, il y a la deuxième partie, qui est l'utilisation de cette lettre. Alors soit ça peut se faire, encore une fois, de façon numérique aujourd'hui, la plupart du temps, avec des logiciels adéquats. N'importe quel traitement de texte, à un moment, il faut réfléchir à quelle forme on va donner à ces lettres. Et c'est pas la même chose de composer un texte en Garamond, en Times ou en Comic Sans. Voilà, c'est toujours bien d'y réfléchir. Et pour ma part, donc, je suis dans le côté traditionnel, on va dire, de la chose, ce qui n'empêche pas de faire des choses contemporaines, mais
artisanales,
on va dire, oui. Donc, j'utilise les outils de base de l'imprimeur typographe, c'est-à-dire des caractères en plomb ou en bois, en relief, des presses qui, comme leur nom l'indique, permettent de presser le papier contre ces caractères qui ont été ancrés avec une encre grasse. Et ces caractères, ils sont au préalable composés, du moins le texte est composé de plein de lettres qui sont alignées les unes à côté des autres dans un petit cadre qu'on appelle un composteur et qui permet de composer du texte et de l'imprimer ensuite.
Et vous, voilà. Êtes un nostalgique de l'imprimerie à l'ancienne ou est-ce que vous êtes un allergique à l'ordinateur ?
Non, je suis ni nostalgique ni allergique. En fait, il y a quelque chose de magique dans le fait d'imprimer. Moi, j'avais, avant de faire de la typographie, quand j'étais en école d'art, je faisais déjà de la gravure. Et en fait, je crois que c'est quelque chose qui... Le premier homme préhistorique qui a trempé sa main dans du sang et qui a posé sa main contre le mur de sa grotte et qui a vu l'empreinte de sa main, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cerveau humain et qui n'a jamais disparu. Et aujourd'hui, ça fait quand même un certain moment que je fais ce métier. À chaque fois que je fais passer le cylindre de ma presse de droite à gauche ou inversement et que je vois la trace d'une lettre imprimée sur le papier,
une émotion.
Ouais, c'est une espèce de révélation à chaque fois. Et ça m'a jamais quitté.
C'est une révélation au sens propre.
Oui, oui, d'ailleurs. Exactement. Mmh. Bah, le Saint-Suaire, on n'est pas loin de la gravure. mais en tout cas, il y a cette importance du geste que j'aime. Mmh. Le fait qu'il faille prendre du temps pour composer le texte. Il faut prendre du temps et du soin pour avoir les mains propres, pour tenir du papier, pour le poser correctement, pour l'enlever, etc. Tout ce processus de fabrication qu'on ne retrouve pas avec des outils numériques, ça, j'aime. Après, ça m'arrive très souvent dans mes éditions, par exemple, de faire des choses avec un ordinateur que je ne peux pas faire avec des outils traditionnels et je vais inclure ça, par exemple, je ne sais pas, dans une couverture qui aurait été typographiée. Donc pour moi, les deux mondes sont une continuité. En fait, l'imprimerie, depuis la naissance de l'impression mécanique, donc par Gutenberg en 1447, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est une espèce de course à l'échalote technologique. Ça ne s'est jamais arrêté. On a toujours essayé d'inventer la machine la plus efficace, la façon de composer.
Plus rapide aussi.
Oui, bien sûr, plus rapide.
Bien sûr.
Ce qui a évidemment provoqué des conflits sociaux, tous les compositeurs typographes qui composaient caractère après caractère. Quand il y a une machine américaine, la Linotype qui est arrivée, et qui permettait de taper sur un clavier pour composer des lignes en relief de façon beaucoup plus rapide, etc. Ça veut dire qu'un type devant sa machine faisait le travail de, je sais pas moi, cinq types devant leur case. Donc évidemment, ça a toujours généré des conflits. Et c'est pour ça que les syndicats du livre, en général, sont des syndicats assez...
assez puissants.
Assez puissants, ouais.
Alors vous n'êtes pas dans la course à l'échalote.
Ben non, je suis pas dans ce, je suis
on
pas
prend
là-dedans.
Le temps chez le professeur Drodro.
Ouais, et puis surtout j'ai assez vite basculé, je sais pas si c'est une bascule, mais enfin moi j'aime, c'est une histoire, l'histoire de cette histoire de l'imprimerie, de la typographie, du livre, c'est quelque chose qui me fascine et qui a des importances quotidiennes auxquels les gens ne sont pas forcément sensibles, ce qui est normal, puisqu'ils n'ont pas été...
Ils ne le voient pas, c'est intégré.
Oui, tout à fait, ils ne sont pas...
Alors vous avez aussi une mission de transmission, d'éveil des gens
Oui, alors transmission, pas forcément, j'essaye pas de créer des vocations de typographe, artisan typographe chez les gens que je rencontre. Par contre, leur dire que, en fait, de la typographie, donc du mot imprimé, il y en a absolument partout autour d'eux, donc sur leurs t-shirts, sur les devantures de magasins, sur les panneaux publicitaires, sur leur écran de télévision ou de téléphone, etc. Et que toutes ces polices, tous ces caractères, ils sont dessinés de façon réfléchie, pensée, et qu'une grande marque de restaurant rapide ne va pas dessiner son M n'importe comment. Il y a quelqu'un qui réfléchit à ça. Un vendeur de chaussures, il ne va pas faire dessiner une virgule sur ses chaussures sans y réfléchir avant. Et tout ça, c'est de la typographie, et ça a du sens. Et une fois qu'on commence à regarder ça et à y réfléchir, j'ai l'espoir qu'on soit un tout petit peu moins consommateur et qu'on soit un peu plus conscient du monde qui nous entoure.
Oui, quoi. C'est une façon d'appréhender aussi le monde qui nous entoure avec un peu plus d'acuité.
En tout cas, oui, moins de passivité, je pense.
Moins de passivité. On va reparler des lettres dont vous êtes follement amoureux et on va reparler de ce concours radio qu'on a réalisé ensemble.
Chouette.
Mais tout d'abord, le 26 et 27 mai, donc on le disait tout à l'heure, professeur Drodro, c'est la fête de l'estampe, donc vous êtes... en joie.
Oui, regardez.
Et c'est un événement national. Et quand vous voyez cet événement arriver, vous vous dites qu'il faut que vous fassiez quelque chose dans votre atelier à Pont-de-Barré.
Exactement. Alors ça fait, je crois que c'est la troisième fois que j'organise quelque chose. Donc la fête de l'estampe, c'est toujours le 26 mai. Donc cette année, c'est chouette, ça tombe un samedi, mais des fois, ça tombe un mardi, etc. Bon, c'est une date qui a été mise au point par l'association Manifestamp qui chapeaute tout ça. Et en fait, si je me souviens bien, le 26 mai, c'est une date anniversaire, date à laquelle Louis XIV a accordé aux graveurs une existence officielle, etc. Donc voilà, il fallait une date, c'est celle-ci. Pendant 3 ans, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité un ou une graveur à venir travailler avec moi dans l'atelier. On s'est fait des espèces d'allers-retours. L'invité imprimait quelque chose, et puis je revenais avec de la typo par-dessus, etc. Et à la fin, on faisait une exposition où on montrait à la fois le travail commun et puis les travaux de l'invité et puis mes travaux.
Cette année, c'est beaucoup plus important. Vous avez invité énormément de gens.
Oui, c'est ça. Alors cette année, c'est plus complexe.
Cette
plus
année, on
complexe.
Va fabriquer une gazette.
Exactement. Alors la gazette, c'est quoi ? On parle de la gazette, c'est
bon,
ça ?
On peut parler de la gazette, ouais. Puisque c'est quand même ce qui va nous tenir toute la semaine précédant le 26 et le 27 mai.
C'est ça. Alors la gazette, c'est une amie graphiste qui s'appelle Camille Nicole, qui est venue m'en parler un jour, il y a 2-3 ans je crois, au festival Pli de Pont-de-Barret. Et en fait, c'est une bande de trimardeurs, une bande de graphistes, d'amateurs, etc.
De trimardeurs.
Trimardeurs, c'est des gens qui font le trimar, donc qui passent d'un atelier à l'autre en cherchant du travail. Voilà.
Okay.
Et du coup, c'est un petit groupe de personnes qui s'est dit, tiens, ce serait quand même assez chouette qu'on essaye de faire de la typo. Et comme on n'a pas d'atelier, ben on va aller voir les gens qui ont
on va squatter
des
les ateliers.
Ateliers
des autres.
Exactement. Donc ils sont allés voir un premier atelier et ils ont dit bon ben voilà, on aimerait faire une gazette. Alors une gazette, c'est la définition d'une gazette, en fait c'est une feuille de chou, c'est une feuille imprimée et pliée, c'est l'ancêtre du journal. Et c'est né en Italie, dit-on, et la gazzetta, c'est une pièce de monnaie, en fait. Donc on donnait
un sou pour avoir une feuille de papier avec des nouvelles.
Exactement, avec les nouvelles de la ville, du jour, etc. Enfin, je ne sais pas si c'était quotidien, mais en tout cas, voilà. Donc, ce groupe est à géométrie complètement variable. Il y a un mail qui est envoyé, vous voulez venir à la gazette numéro 1, ok, tout le monde vient, ou... Voilà. Et ensuite, cette gazette, elle va être fabriquée uniquement avec les outils de l'atelier. Donc, avec les polices de caractère qu'on peut y trouver, sur le papier qu'on peut y trouver, avec les techniques d'impression qu'on peut y trouver, s'il y a de la sérigraphie, s'il y a de la taille douce, s'il y a, etc., de la linogravure, qui sont toutes des techniques d'impression. Et on produit, comme ça, sur une semaine, cette gazette. C'est tiré à 250 exemplaires. Et ensuite, il n'y a pas forcément de but lucratif, elles ne sont pas forcément vendues, mais au contraire, elles sont plutôt distribuées un peu comme ça, aux bonnes personnes, enfin bon, voilà. Et puis,
bonnes personnes.
Oui, les bonnes personnes, vous savez.
Donc là, avant le 26 et le 27, qui est donc un week-end, toute la semaine, on peut passer aussi, voir ce qui se passe pour la construction de cette gazette.
Alors, pas vraiment, parce que du coup, on va être en production.
Ça, c'est entre, voilà.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, dernière chose, c'est le propriétaire de l'atelier qui donne le thème de la gazette.
Donc c'est vous, professeur, le propriétaire de l'atelier
du quai. Cette fois-ci, c'est moi qui décide.
Et c'est la 10e gazette aussi.
Et c'est le numéro 10. Alors ouais. C'est pour ça, comme c'était le numéro 10, j'ai proposé qu'on fasse une exposition pour présenter les 10 gazettes. Ce qui veut dire que nous, on va travailler, disons, du dimanche qui vient au vendredi. Et qu'ensuite, il faut plier, il faut tout finir pour pouvoir présenter ça. Le samedi 26 à 11h, c'est l'heure du vernissage.
Et quelles sont les autres activités proposées le week-end ? Il y a un concert, on va parler du concours typographie sonore. Mais...
Donc il va y avoir, pour les gens qui connaissent le quai, au rez-de-chaussée, il y a une salle d'exposition, donc le quai de Pont-de-Barret, où seront présentées à la fois les 10 gazettes et puis certainement une petite librairie qui présentera un peu justement les travaux des différents participants à la gazette. Pour donner un peu un aperçu de leur parcours. Et puis, à l'étage, dans mon atelier, donc on va organiser l'espace pour qu'il y ait plusieurs ateliers qui soient proposés et ouverts à tous et toutes, à partir de 7 ans. Ce n'est pas du tout réservé aux enfants, il faut bien l'entendre Vous êtes adulte, vous avez le droit de venir vous amuser à faire de la gravure et de la typographie. Je ne peux pas vous donner le détail exact des ateliers, mais disons que ça va être un lieu de rencontre. J'ai invité un certain nombre d'amis typographes ou graphistes, etc. Mmh. Et on va être là pour...
À disposition du public, en fait, pour les accompagner, leur faire découvrir.
C'est ça, pour mener des ateliers, puis simplement avoir le plaisir de discuter un peu de ce qu'on vient de faire au début de l'interview, c'est-à-dire la place de la typographie aujourd'hui. Ça n'aura rien de formel, il n'y a pas de débat organisé ou de choses comme ça. Il y a un bar, évidemment.
Ah, ça, c'est donc, très formel.
Voilà, c'est exactement, c'est là que les choses se passent en général.
Tout à l'heure, la brique élémentaire de la typographie, c'est le caractère, l'alphabet, la lettre. D'où cette idée que vous avez eue de lancer un concours d'écriture de caractères que nous avons traduit en radio, et ce depuis un mois, et qui propose aux auditeurs et aux auditrices d'écrire leur lettre préférée et de l'enregistrer. Vous, c'est quoi, professeur Drodreau, votre lettre préférée ? Parce que je crois que vous n'avez pas participé au concours.
Non, je n'ai pas participé au concours, pour être tout à fait impartial. Moi, je crois que c'est l'esperluette, mon caractère préféré.
Mais là, vous me faites très plaisir.
Je sais.
Moi qui ai participé au concours, mais ce n'est pas une lettre.
Oh ben, c'est pas une lettre, non, c'est une abréviation, mais enfin...
C'est une abréviation
Oui, ben c'est le E, c'est le ET.
Ouais. C'est un logogramme, c'est ça?
Ça l'est devenu.
C'est quoi un logogramme?
C'est devenu un logogramme, c'est un signe qui fait sens, quoi. C'est-à-dire, dans une célèbre marque de magasin, il est présent... Vous voyez, ça s'appelle le « et » commercial.
Ah oui, le « et » commercial. Voilà.
Mais à l'origine, c'est une abréviation médiévale. Il faut imaginer les moines copistes qui travaillaient toute la journée à plus ou moins copier la même page. Au bout d'un moment, ils en avaient un peu marre. Et puis, surtout le parchemin, c'était compliqué à faire. Donc, on avait besoin de place. Donc, on faisait des abréviations. On faisait une esperluette plutôt qu'un « et ». Et par exemple, le point virgule aujourd'hui, c'est l'abréviation du « que », Q-U-E, latin. Vous voyez, il y en a plein des petites... Le tilde qu'on retrouve en occitan ou en espagnol.
La tilde, on a aussi une...
Alors, on dit le tilde.
Le tilde.
Ouais.
Ah.
Et oui.
On en a aussi une à écouter, en tout cas.
Oui, je sais, c'est pour ça que j'en parle.
Celle-là, du coup, c'est...
C'est souvent l'abréviation d'un N ou d'un M. Voilà. Donc, on finissait un mot avec un O et une tilde sur le O, et on n'avait pas besoin d'écrire le N.
Et est-ce qu'on sait pourquoi le tilde est plus présent, par exemple, dans la langue espagnole ?
Moi, je ne le sais pas. Quelqu'un doit le savoir.
Peut-être
mais moi,
qu'on l'apprendra lors de ce week-end.
Exactement.
Alors, les lettres qui ont été enregistrées par les auditeurs, on va les entendre samedi et dimanche.
Voilà. Alors, effectivement, pour revenir
à
nos moutons et à l'origine, moi, j'avais proposé ce concours purement d'écriture, parce que je trouvais ça assez amusant. Et puis, on en a discuté ensemble et vous avez eu la gentillesse de m'accompagner dans ce week-end. Et du coup, c'est devenu un concours radiophonique. Et donc, le samedi à 15h et le dimanche à 15h, on aura une écoute publique de tous les textes qui ont été recueillis par la radio. Et le dimanche à 15h, cette écoute sera suivie d'une remise de prix. Voilà, puisque on a aussi eu la chance d'être aidé dans ce mouvement par un certain nombre de librairies qui ont généreusement fait don de l'eau.
D'ouvrages,
ouais. Alors je leur ai demandé de fournir des ouvrages liés à l'imprimerie, à la typographie, etc. Ou ce sera des bons
d'achat.
On va peut-être dire qui sont nos gentils partenaires. Alors, il y a la librairie Sau et Gambade de Dieulfi, la nouvelle librairie Baume de Montélimar, la librairie Mosaïque de Die et la librairie La Balançoire de Craie. Voilà.
On est bien entouré.
Ouais, c'est. Alors pour moi, en plus, c'est un peu, c'est la première fois que je vais chercher des partenaires pour soutenir un événement. Et je suis bien content d'avoir des libraires comme ça qui que ce genre de proposition amuse. Voilà, donc c'était chouette. Du coup, il y aura pour ceux qui n'ont pas encore écrit une lettre et que ça peut motiver, il y a des beaux lots à gagner. Voilà.
Bon, à défaut de peut-être de gagner le gros lot, une dernière question. Pourquoi c'est important de manipuler les lettres, d'avoir un rapport avec les lettres, professeur Drodro?
Eh bien, c'est important parce qu'il faut avoir une lettre physique dans la main. C'est se rendre compte de son existence et de sa forme. Et ça permet de voir qu'une lettre... c'est pas justement, c'est pas uniquement un élément, disons, d'un alphabet qui compose un mot, qui donne du sens, etc. Mais à la base, c'est une forme. Et ça, on s'en rend mieux compte quand on les a dans les mains. Et j'allais dire, il y a même quelque chose qu'on ne peut pas apercevoir sur un écran, c'est qu'un caractère d'imprimerie, il a deux choses. Il y a le caractère qui est le morceau de bois sur lequel est taillée la lettre. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'œil de la lettre, qui est la partie qui va s'imprimer. Mais cette partie imprimée, elle n'a pas la même taille, forcément, que le caractère. Et autour de ce caractère, il y a de l'espace, qu'on appelle une approche. Et ça
l'approche
aussi...
L'approche à côté de l'œil. L'approche de l'œil.
Exactement. Un caractère...
C'est extrêmement poétique.
Oui, bien sûr. On appelle un caractère... On appelle ça un caractère et pas une lettre. On a tous un caractère bavard, ou etc.
Qu'est-ce que l'expression « au pied de la lettre » évoque chez vous, professeur Drodro?
Vous m'avez au dépourvu. Au pied de la lettre, c'est tout de suite, là. Voilà, maintenant.
Et quelle impression aimeriez-vous laisser au monde?
Une bonne impression, j'imagine, mais laquelle? J'en fais plein, alors je la choisirai juste avant de mourir. Je choisirai celle avec laquelle je voudrais être enterré.
Merci, professeur Drodro, d'être venu nous parler de ce week-end. Un typo, deux typos, toi typo, doudou. On ne l'a pas chanté, mais le titre est chantant.
On
ne
l'a pas chanté, oui. Et je voudrais dire à tous les potiers qui aimeraient me voler ce titre pour faire un petit pot, deux petits pots, toi petit pot, doudou.
Que c'est
déposé. Trop tard.
On y trouvera une petite boutique, librairie, un bar, de quoi grignoter, et on découvrira les caractères, les polices et la typographie dans tous ces états.
Je voudrais juste préciser, donc, les ateliers sont ouverts à partir de 14h le samedi et le dimanche.
D'accord, samedi 26, dimanche 27, et toutes les infos sont à retrouver sur drodro.canalblog.com. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup. Le mois de mai, c'est le mois de chaleur. Tout petit oiseau qu'a changé plumagio. Tout petit pied bois qu'a changé feuillagio. Alors tu aimes moins, pourra changer pour moins. Pas moins un petit beau, c'est un petit beau, soit un petit beau. Pas moins un petit beau, c'est un petit beau, soit un petit beau. Pas moins un petit beau, c'est un petit beau, soit un petit. Pas moins tout ça roulé. Bye.